Le contexte dans lequel nous venons de voir, vous voyez le texte que notre frère vient de lire. Et quand on regarde l'image que nous avons un adulte qui est inquiet. Et dans la société, les gens expriment leur inquiétude de différentes manières. Les adultes, ça pleure pas souvent, mais les enfants, ça pleure. Et ils sont plus vrais des fois que les adultes. Quand ça va pas, on le voit sur la photo, l'enfant, il pleure, il s'inquiète. Comme les adultes aussi, même si ce n'est pas la même hauteur d'inquiétude qu'ils ont, il ne s'inquiétera pas parce qu'il a perdu son travail, il pleure, mais il va pleurer parce qu'il n'a pas quelque chose qu'il voudrait avoir. Alors ça, c'est un enseignement que j'ai donné tout récemment à Chicoutimi. Alors j'ai pensé que ce serait bien pour l'Assemblée aussi de partager. Mais Rachel Hainaut était là. Je pense que si tu es là pour une deuxième fois, peut-être que Dieu voudrait que tu l'entendes celle-là deux fois. Le contexte ici dans lequel nous sommes, c'est que Jésus était en train de marcher dans les plaines de Jérusalem, d'Israël, et pendant qu'il marchait dans ces endroits et qu'il enseignait, il s'adressait à une différente catégorie de personnes. Il parlait à une foule qui est mélangée de paysans, de pêcheurs et de gens ordinaires. Et il parlait à eux au fur et à mesure. Et pendant qu'il parlait à ces personnes-là, il les enseignait sur deux choses importantes. Premièrement, la crainte de Dieu versus crainte de l'homme. Et la deuxième chose, il va parler de lui-même, qu'est-ce que la société pense de lui. Et pendant que Jésus était en train d'enseigner dans ce thème-là, voilà que son enseignement va être persécuté par l'intervention d'un jeune. Et ce jeune vient, il le dit, « Seigneur, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Et cela, on le voit dans le verset 13. Il demande au Seigneur, il interrompt le discours du Seigneur. « Dis à mon frère de partager notre héritage. » Probablement, la façon dont ce jeune parle, probablement ses parents sont décédés ou leurs parents sont décédés et ils avaient de l'héritage à partager. Et il n'y avait personne probablement qui était disposé pour partager cet héritage. Alors voilà que lui, il tombe sur la meilleure des personnes, le meilleur juge sur la planète qui devrait faire ce jugement-là, qui va être correct. Il ne pouvait pas avoir de meilleur juge que Jésus-Christ. Et il lui demande, mais ce qui m'a surpris, j'ai été surpris par la réponse de Jésus. J'ai été surpris par la réponse de Jésus au verset 14. Jésus dit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour partager, pour faire vos partages ?» J'ai dit, « Mais quelqu'un te demande justice. Tu es le roi de la justice, tu es le Dieu de justice. Tu es même venu faire une mission pour que les gens soient sauvés. Alors voilà quelqu'un qui est dans un besoin. Alors il te demande et puis tu dis que tu n'es pas là pour partager. C'est aberrant. Moi, je suis tombé en bas de mon fauteuil. Et je dis, mais ce n'est pas normal. Mais Jésus, connaissant le cœur de l'être humain, il connaissait le cœur de ce jeune homme-là. Alors le Seigneur va se saisir de tout cela et il va donner un enseignement au peuple. Donc vous voyez, pendant qu'il était en train de parler de la crainte de Dieu versus crainte de l'homme et de ce que la société pense de lui, voilà que son discours est intercepté et coupé par un jeune. Et Jésus va changer de discours. Il va dire aux gens, prenez garde, faites attention à l'avarice, à l'égoïsme. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Vous n'êtes pas ce que vous avez. Vous n'êtes pas ce que vous possédez. Vous êtes plus que ça. Alors Jésus va se saisir de ce moment-là. Il va donner un enseignement à tout le monde en ce moment, sur la même place. Pour dire que vous n'êtes pas ce que vous êtes et vous avez, vous n'êtes pas ce que vous possédez. Donc Jésus met les gens en garde contre l'avarice et l'égoïsme et qui donne une fausse sécurité aux gens. Les gens, ils accumulent pour quoi? Ils accumulent pour pouvoir se sécuriser. Et en même temps, qu'est-ce que Jésus va faire pour appuyer que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens? Il va raconter l'histoire, la parabole du riche insensé qui a bien acquis sa richesse, qui n'est pas un Vincent Lacroix qui a détourné les gens pour se remplir la poche, mais qui a travaillé honnêtement, il a travaillé la terre, il a probablement payé tous ses employés comme il se doit, ses greniers sont remplis, mais sauf que cet homme est égoïste et avare, il ne pense pas au prochain, alors il dit, mon âme, repose-toi, vis en abondance, tu as de quoi pour toute ta vie, et vis dans le plaisir. Alors, Dieu dit, que ce soir ton âme te sera enlevée. Tout ce que tu as gardé, ce sera pour qui? Alors Jésus se saisit de cela pour dire que quelqu'un qui est riche pour lui-même, il ne l'est pas pour Dieu, que notre vie ne dépend pas de nos biens. Donc tu es plus que ton diplôme, mon frère. Tu es plus que tes biens matériels que tu as chez toi. Tu es plus que tout ce que tu peux posséder. Tu es important aux yeux de Dieu dans ta valeur intrinsèque. Amen. Et c'est ce que j'aimerais que nous comprenions. Et ce soir, mon but est de nous encourager, nous exhorter, à savoir que Dieu a un autre regard sur nous qui est différent de ce que nous-mêmes nous projetons sur nous-mêmes. Et à partir de ce moment, Jésus va aborder notre sujet sur l'inquiétude. S'il part de cette histoire, il va introduire l'inquiétude, le sujet sur l'inquiétude, il va introduire cela à partir du verset 22 à 24. C'est dans ce contexte-là que Jésus introduit le thème de ce soir. L'inquiétude. Comment gérer nos inquiétudes selon la Bible dans un monde qui est instable? Comme moi, vous savez tous que notre société, notre monde passe une crise économique depuis 2008. On est dedans et nous savons que quand le début de la crise est arrivé, beaucoup de gens ont perdu leur emploi aux États-Unis, comme au Canada, et des gens ont perdu réellement leur, comment on pourrait dire, leur quota de retraite, comme ça, on le dit. Alors, ils ont perdu leur rang de Québec, ou bien leur, pas le rang de Québec, là, mais leur pension, c'est ça, merci, c'est le mot que je cherchais, Michel. Alors, donc, ils ont perdu leur pension, certains, à cause de la crise. On a vu des gens qui dormaient dans les rues aux États-Unis. On a vu des gens qui dormaient dans leurs véhicules. Et beaucoup de gens souffrent de ça. La caisse de dépôt de placement du Québec, qui est la Badeleine des Québécois, a perdu entre 30 et 40 milliards de dollars, selon les médias. Et c'était vraiment difficile. Même si notre crise économique aujourd'hui n'est pas comme celle de 1928-29 qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts, ni comme celle de 1980, où au Québec, plusieurs personnes ont perdu leur travail, où les taux d'intérêt d'hypothèque sont montés de 17 à 25% d'intérêt, et beaucoup de gens ont perdu leur maison. Même si aujourd'hui nous ne sommes pas rendus là, mais nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a une crise parce que des gens perdent leur emploi. Et tout récemment, nous avons vu à Montréal, à Véos, qui sont en train de perdre leur emploi, les employés, là-bas. Combien de personnes? Entre 1200 à 2000 personnes qui vont perdre leur emploi ou qui ont déjà perdu leur emploi. Et on a vu nos jeunes étudiants dans les rues il y a quelques jours qui manifestaient pourquoi l'augmentation des prix de scolarité. Tout cela sont les effets de la crise économique. Nous ne pouvons plus dire que nous sommes chrétiens face à toute cette incertitude. Face à toutes ces turbulences que notre société connaît, nous ne pouvons pas nous cacher sous le parapluie de chrétiens en disant, nous sommes chrétiens, faire la politique de l'Autriche comme si la crise économique n'existe pas. La pinte de lait sur le marché coûte le même prix que pour le chrétien comme pour le non-chrétien. L'essence coûte le même prix. Nous avons les mêmes obligations, l'hypothèque à payer, nous avons des prêts d'auto à payer et nous avons à pourvoir aux besoins de ceux de notre famille et à nous-mêmes. Donc, nous voyons les effets de la crise économique tous les jours. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Mais que dit la Bible face aux inquiétudes? Et tout cela provoque une inquiétude sur le peuple de Dieu. Et c'est normal. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas s'inquiéter. On est des humains. On a des réalités devant nous. Il faut faire face à cela. Mais vous avez raison de vous inquiéter, mes frères. J'ai raison de m'inquiéter. Face à un monde instable, nous avons tous droit de nous inquiéter. Mais sauf que la Bible nous donne plusieurs raisons pour ne pas nous inquiéter. C'est ce que nous allons regarder ce soir. Amen. Cette raison pour ne pas s'inquiéter. La Bible nous donne cette raison. 6 est dans le texte que nous allons lire. Et il y a un autre dans Matthieu chapitre 13 que nous allons voir. Ok, l'affaire, ça va? Je pense que je suis passé déjà sur mon plan, je n'ai pas commencé. Ok, on vient de rentrer le contexte, tout ça. Et on va voir, et puis, bon, maintenant on vient. Premièrement, pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? L'Écriture nous dit que la vie vaut mieux plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. La Bible est en train de te dire que tu es plus important, mon frère. La vie que Dieu t'a donnée, tu as plus de valeur que la nourriture, tu as plus de la valeur que du vêtement. Dieu t'a donné un corps qui ne s'use pas. Tu le laves, ça ne se délave pas. Moi-même, je me lave, je suis noir, je pensais que j'allais délaver, mais je ne me délave pas. Je ne pâlis pas tout le temps. Alors donc, Dieu t'a donné quelque chose de consistant, de solide, de bien, de plus important que la nourriture ou le vêtement, qui ne s'use pas et qui est important qu'il faut veiller dessus, il faut bien prendre soin. Donc, si la vie est plus importante que la nourriture et le corps plus que le vêtement, pourquoi s'inquiéter pour la nourriture, s'inquiéter pour le vêtement? Si Dieu t'a donné quelque chose qui est plus important que ça, pourquoi il ne peut pas te donner d'autres choses? Il peut te donner d'autres choses plus que cela. La vie n'est pas seulement la nourriture et le vêtement. Deuxième raison que Dieu nous donne pour ne pas que nous nous inquiétons, considérez les corbeaux. Et c'est ce qu'il nous dit. Nous pouvons regarder cela. Attends, il faut que je trouve une ulette là. Excusez-moi une minute. Nous pouvons regarder cela dans le texte même, au verset 24. Le verset 24, qu'est-ce qu'il nous dit, si on regarde bien ce texte? Il nous dit de considérer les corbeaux. Il dit, considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien valez-vous plus que les corbeaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de durée à sa vie? Je vais m'arrêter là. Et Jésus va prendre maintenant en Israël, pendant qu'il est toujours en train de parler avec la foule, il prend quelque chose de concret que les Israéliens, les gens ont l'habitude de voir, un corbeau. Au Québec, on connaît tous le corbeau, vous êtes d'accord avec moi? L'été est en train de s'annoncer là, le printemps là, on les voit chanter partout. Dans ma cour là-bas, dans mon chenou à côté là, ils chantent sur le toit, quoi, partout. J'ai dit, moi je crois déjà, va chanter chez les autres. Va chanter chez les autres, ils n'ont qu'à croire. Moi, je suis déjà chrétien. Les autres qui ne croient pas, là, les inconvertis là, dans la prison, il y en a plein. Va leur dire ça. Moi, je crois déjà en Dieu. Alors, donc, il prend le corbeau, qui est un animal impur. Et il dit, regardez cet animal-là, qui vit du déchet, qui vit de la saleté, qui renverse nos poubelles et qui fouille dedans. Et dit, regarde ça. Il ne s'inquiète pas. Personne n'a vu. Un corbeau prend son sac à dos puis dit, on dit tu vas où? Il dit, je m'en vais à la job, il faut que je mange. Non, le corbeau, il se lève, il sait qu'il va avoir à manger. Mais une chose est certaine, je ne voudrais pas que les gens pensent que, bon, Dieu pourvoit nos besoins, je ne veux pas enseigner le fainéantisme, je ne veux pas enseigner la paresse. Je veux que nous sachions que Dieu pourvoit à nos besoins, Dieu est fidèle. Le corbeau a une chose à faire, c'est que quand il se lève le matin, il doit parcourir la ville de Trois-Rivières pour se trouver de quoi à manger. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut qu'il sorte de son nid. Si le corbeau reste dans son nid et qu'il dit, bye, moi, Dieu va me nourrir, il va pourrir dans son nid. Ça, c'est sûr. Il va mourir, il va pourrir. Pas parce que Dieu n'a pas pourvu à ses besoins, mais parce qu'il a été insensé, il n'a pas mis son intelligence en pratique pour sortir comme les autres animaux pour aller chercher de quoi à manger. Alors donc, nous devons sortir pour faire notre travail, pour chercher ce qu'on peut faire. Mais nous devons faire confiance que le nécessaire que nous avons besoin, Dieu va être fidèle et pourvoir. Amen. Troisième point que Dieu donne comme réellement un autre point dans le... une autre raison pour ne pas s'inquiéter. Cela ne sert à rien de s'inquiéter. Ça te sert à rien de s'inquiéter. Il dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une durée de coudée à sa vie? Un coudée là, c'est là à là. De ici là à là, c'est un coudé. Il dit, tu ne peux pas changer ta vie d'un coudé. D'un iota, tu ne peux rien faire. Si tu ne peux pas changer ta vie, à quoi sert de t'asseoir? comment ça va se passer? Est-ce que je vais manger aujourd'hui? Tu n'as pas à t'inquiéter. Soupirer comme ça, tu te fatigues pour rien, ça ne changera rien dans ta situation. Plutôt que de soupirer, loue Dieu. Plus que de se soupirer, prie ton Seigneur. Plutôt que de soupirer, compte les bienfaits que Dieu a fait hier. Et là, tu vas pouvoir adorer Dieu. Amen. Et ça va nous amener vers quelque chose de positif. Ce n'est pas nécessaire de t'inquiéter d'une manière, comme on appelle, inconcevable. S'inquiéter à outre mesure, ce n'est pas correct. Il donne ça. Et cinquième raison pour nous, pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter, il dit considérer comment croissent le lys. Et le lys qu'il donne, c'est une fleur qui pousse en Israël partout. C'est comme le mauvaise herbe, comme les pissenlits qu'on a chez nous ici, là. Bientôt, les pissenlits vont pousser dans les gazons, on va les voir, là. Et Jésus dit, allez-y regarder ça. Il ne file, ni ne tisse. Mais cependant, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme un d'eux. Salomon, dans toute sa gloire, Jésus fait une comparaison avec un des rois qui était au sommet de sa gloire en Israël, où aucun roi sur la face de la terre n'a été riche comme cet homme, n'a eu le succès comme cet homme. Et Jésus même dit, il dit, personne n'a été, je dis Jésus dit, l'Ancien Testament nous dit que quand Dieu a parlé à Salomon, il dit Salomon dans son rêve, il dit tu n'as pas demandé que je tue tes ennemis, tu n'as pas demandé que je te rende riche, mais tout ce que tu n'as pas demandé, je t'en donnerai. Personne avant toi ni après toi ne sera riche comme toi, ni sage comme toi. Et Jésus dit, regardez les plantes. Même dans toute leur beauté, Salomon dans sa beauté n'a jamais été vêtu comme un d'eux. C'est-à-dire Salomon dans toute sa richesse. Si Dieu revêt ainsi la plante des champs, qui va être brûlée demain matin, il dit, pourquoi toi tu dois t'inquiéter? Pourquoi moi je dois m'inquiéter? S'il prend soin de quelque chose qui n'est même pas important aux yeux de nous, les humains, Dieu va prendre soin de toi, mon frère. Ce que tu dois savoir, ou ce que nous devons savoir, frères et chers, frères et sœurs, je dis frères et chers, ouais, on est tous en chair, c'est normal. Frères et sœurs, ce que nous devons savoir, en réalité, tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Il n'y a pas quelque chose dans le ciel qui est plus important que toi et moi, à part Christ. Et il a donné Christ pour nous. Donc nous sommes à la valeur de Christ dans le ciel devant Dieu. Donc, si Dieu, tu es le chef-d'œuvre de Dieu, pourquoi il va te négliger? Personne ne néglige son chef-d'œuvre. Vous êtes d'accord avec moi? Picasso, là, il a fait de la peinture, hein? Il n'est pas là, mais les gens protègent encore son œuvre. Alors, penserez-vous que Dieu ne nous protégerait pas, il ne prendra pas soin de nous? Ne t'inquiète pas. Il dit, sixième point, ne vous inquiétez pas, parce que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Il dit, toutes ces choses-là, c'est quoi que les païens cherchent? Le bien matériel. Le païen trouve son identité et sa gloire dans le bien matériel, dans le manger, dans le boire, dans le luxe, dans tout ce qu'il peut avoir, comme voiture, comme maison, comme femme, parce que lui, il n'a pas d'autre lendemain. Sa vie, c'est ici. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est terminé ici pour le païen, c'est ça. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, moi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un lendemain. Notre vie ne se résume pas ici. Nous avons l'éternité avec Dieu. Amen. Alors, c'est pourquoi il nous dit, ça là, ce sont les païens qui les cherchent. Perds pas ton temps à courir après ça. Dieu va pourvoir à tes besoins. Il va t'aider. Parce que tu es son enfant. Il t'a donné une bedaine. Il sait qu'on doit mettre quelque chose dedans. Nos véhicules ont des tanks à gaz. Chaque fois, on va dans des stations pour tanker. Nous aussi, on va tanker dans des stations comme McDo, comme AVWA, comme dans d'autres restaurants. C'est le magasin, c'est la station d'essence pour nos bédaines. On s'arrête là. Je suis sûr qu'il y a des jeunes ce soir qui sont allés tanker à McDo. Vous êtes d'accord avec moi? Quelques gens sont allés, si on vérifie. Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit de ne pas s'inquiéter. Ces choses-là, c'est les païens qui les cherchent. Et il donne une autre raison pour nous dire pourquoi nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Il dit parce que votre Père céleste dans le ciel connaît vos besoins. Dieu sait ce que nous avons besoin. Un père, ce qui me touche dans ça, il dit, votre père. C'est-à-dire que tu es enfant de Dieu. Ton papa, il sait que tu as un besoin. Et il va pourvoir. Ça prend un père inconscient, un père paresseux, un père vraiment qui n'est pas, on ne peut pas appeler un père, qui ne connaît pas les besoins de son enfant. Sinon, toute personne qui est papa ou maman connaît les besoins de son enfant. Moi, je ne vois pas un bébé qui est dans sa couche qui dit « Maman, viens me changer ». Non, les mamans, ils savent qu'il faut changer leur enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Et les papas, ils savent que l'enfant a besoin de boire du lait. Ils vont lui donner quand il a faim. Tout le monde sait ça. Un bébé, il ne s'inquiète pas. Il dit « Papa, est-ce que tu vas payer mon lait aujourd'hui quand tu vas au travail ?» Le bébé, il ne s'inquiète pas pour ça. Il ne laisse pas une note « Papa, il ne faut pas oublier mon telle chose ». Non. Le père sait que son fils a besoin. Il va pourvoir. Et ici, l'Écriture nous dit « Notre Père céleste sait, connaît vos besoins. » Amen. Moi, je me réjouis de ce que Dieu connaît mes besoins. Avant même que j'ouvre la bouche, il connaît mes besoins. Les raisons pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter. Et la dernière question, dernière raison qui est, septième raison pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter, ici c'est quoi? C'est que, il dit, les inquiétudes étouffent notre foi. Nous pouvons regarder cela. Il dit, celui qui a, ça c'est dans le cadre du semeur. Jésus parle du semeur qui est sorti pour s'aimer. Et il y a des semences qui sont tombées au bord de la route, d'autres sont tombées sur la bonne terre, d'autres sont tombées sur le roche, sur les rochers, et Jésus va parler de ces quatre terres-là. Et ce qui est tombé sur le rocher, ça a poussé vite, et d'autres sont tombés dans les épines. Et là, il parle des épines. Et quand ce qui est tombé, la semence qui est tombée dans les épines, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole de Dieu et qui, et en qui les soucis de ce siècle, la séduction, la richesse étouffent cette parole et la rend infructueuse. Ça voudrait dire quoi? La richesse de ce monde, les soucis de ce monde sont un obstacle pour la croissance de la parole de Dieu dans ta vie. Ça étouffe la parole de Dieu. C'est pourquoi ce n'est pas avantageux pour toi et pour moi de nous inquiéter. Parce que les soucis vont faire quoi? Ils vont étrangler la parole de Dieu dans notre foi, dans notre cœur, et notre foi ne grandira pas. Notre foi ne produit pas. Et au lieu qu'on doit mettre notre foi dans la parole de Dieu, on va commencer à avoir peur et mettre notre foi ailleurs. Et ici, il veut que nous mettons notre confiance dans la parole de Dieu. Donc, l'inquiétude est néfaste pour toi. Et pour moi, frères et sœurs, ça étouffe ta foi. Ça empêche ta foi de grandir. Ça, c'est le dernier point. Maintenant que nous savons que Dieu nous a donné sept raisons pour ne pas nous inquiéter, que devons-nous faire maintenant? Donc, nous devons faire confiance en Dieu. C'est ce que Dieu nous dit. Faites-moi confiance. Je viens de vous donner des raisons pour lesquelles vous devez me faire confiance. C'est ça. Faites-moi confiance. Mais pourquoi je dois faire confiance à Dieu? Alors, il nous donne des raisons pourquoi on doit lui faire confiance. On va voir ça. Et Dieu dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il n'a pas dit, donne 50% de ton cœur à Dieu et puis 50% toi tu le contrôles. Non. De tout ton être, compte sur Dieu. Et Dieu promet d'aplanir ton sentier. Donc, il est digne de confiance. On peut le faire confiance. Alors, pourquoi nous devons faire confiance en Dieu? Ésaïe 41:10, on peut le lire. Ésaïe 41:10, il nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. » Je suis ton Dieu, je te fortifie, je te soutiens, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu te dit, fais-moi confiance. Pourquoi? Parce que premièrement, je suis ton Dieu. Je ne suis pas n'importe qui là. Je suis Dieu. Je suis ton Dieu. Ne promène pas de regard inquiet, ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas autour de toi. Et cette parole s'adressait à Israël. qui s'inquiétaient pour ses ennemis autour de lui, qui pouvaient l'envahir d'un moment à l'autre. Et Dieu leur dit, ne vous inquiétez pas, je serai avec vous. Je vais vous soutenir, je vais pourvoir à vos besoins, je vais vous défendre. Et Dieu promet cette parole-là aussi pour nous. Il est ton Dieu, il est mon Dieu. Il dit, je vais te fortifier, je vais te soutenir, je viens à ton secours. Dieu va venir à ton secours. Que ce soit les inquiétudes, ce n'est pas seulement matériel, ça peut être aussi physique. On est malade, on peut tomber malade, on peut avoir des problèmes de couple, on peut avoir des problèmes dans le travail, on peut avoir des problèmes avec nos amis, avec notre entourage. Mais Dieu te promet de te venir en aide. C'est ça. Pourquoi je dois faire confiance à Dieu? Parce que Dieu dit dans Ésaïe 49, 15, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Tu dois faire confiance parce que Dieu dit qu'une femme peut oublier son enfant. C'est une question qu'il a posée. C'est rare que cela arrive. Une femme qui allait, ça voudrait dire quoi? Une femme qui vient d'accoucher nouvellement, qui a un nouveau-né en main. Elle allait, ce bébé-là. Elle n'a pas encore oublié les douleurs de l'enfantement, là. On dit, est-ce qu'elle peut oublier son bébé? Et si même il arrivait qu'une femme oubliait son enfant, moi Dieu, je ne t'oublierai point. Je vais prendre soin de toi. Et c'est ce que Dieu donne comme promesse. Voilà pourquoi nous devons faire confiance à l'Éternel. Parce que Dieu promet de ne pas nous oublier et d'être avec nous, de ne pas nous abandonner. Je ne sais pas dans quoi tu te sens abandonné. Peut-être ces moments difficiles que tu vis, tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses qu'il n'y a plus de sortie pour toi. Tes prières semblent être inefficaces. Tu as l'impression que le ciel n'entend aucune de tes prières. Cependant, Dieu dit, je ne t'ai pas oublié. Je suis avec toi. Vous connaissez cette histoire des pas dans le sable. Le monsieur, il marchait avec Dieu. Et les deux ont leur pas dans le sable ensemble. Et chaque fois qu'il y avait des difficultés qui se présentaient, le gars, il se tournait, il voyait, il s'est assis, il a vu qu'il y avait un seul pas. Il pensait que ce n'était pas à lui. Il dit, mais Seigneur, que se passe-t-il? Tu es avec moi, quand on marche, je vois mes pas, je vois les tiens. Mais toutes les fois que j'ai constaté, quand je suis en difficulté, tu n'étais jamais là, tu as disparu. Le Seigneur dit, non, les pas que tu vois, ce n'est pas tes pas, toi, c'est moi mes pas. Parce que pendant ces moments difficiles, je t'ai porté sur mes épaules. Je t'ai pris, tu étais sur mes épaules. C'est pourquoi tu ne vois pas tes pas à toi, ce sont les miens. Dieu promet de ne pas nous abandonner, d'être avec nous. Si tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, frère et soeur, je veux que tu saches ce soir que Dieu ne t'a pas abandonné, qu'il est avec toi. Amen. Comment maintenant faire confiance en Dieu? Selon le texte que nous avons lu au verset 31, il nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Comment je peux faire confiance en Dieu? Au verset 31.
Oh, je suis parti plus loin.
Un volontaire peut le lire pour moi? Verset 31, s'il vous plaît. Voilà, pour éviter les inquiétudes, pour faire confiance en Dieu, comment je peux faire confiance en Dieu? Il dit, il faut investir à la bonne place. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je dois faire confiance en Dieu en cherchant, en faisant du royaume de Dieu mon but. En faisant du royaume de Dieu la priorité des priorités dans ma vie. Comment je peux faire du royaume des cieux ma priorité tous les jours? Comment? Comment on cherche? C'est en m'approchant de Dieu. C'est en faisant des choses de Dieu une priorité dans ma vie. En ne pas les négliger. Et ainsi, je peux être proche de mon Dieu. Et il continue. Encore. Quoi faire pour éviter toutes ces inquiétudes-là? Et faire confiance en Dieu toujours? Investissez à la bonne place. au ciel. 33. Le verset 33 nous dit ceci. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, là où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne détruit point. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc ici, il nous dit, faire confiance en Dieu, premièrement, c'est de chercher le royaume des cieux. Deuxièmement, c'est d'investir à la bonne place. En investissant à la bonne place, les gens ont investi dans la bourse. Ils ont investi dans les rires. Je ne dis pas que vous ne devez pas le faire. Mais si tu as investi tout ton argent là, en comptant que ça va te donner une sécurité, le crash de l'économie vient de te dire que ce n'est pas sécure. Donc, Dieu nous montre un endroit sécuritaire où il n'y a pas les Vincent Lacroix, où il n'y a pas les Monsieur Madoff, où il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent aller voler. Où l'économie, la bourse va faire des crashs, mais ça ne sera pas touché. Et comment je peux investir là? Il dit, vendez et donnez. Donnez de l'aumône, faire du bien. C'est-à-dire que quand j'investis dans un frère, je viens d'investir dans le ciel. Dans une sœur, je viens d'investir. Quand je donne à l'église pour la croissance, pour les biens, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, les dîmes, les offrandes que je donne, c'est une façon d'investir dans le royaume des cieux. Quand je vois un pauvre dans la rue qui est dans le besoin et que je prends soin de lui, c'est une façon d'investir. Ça peut être financièrement, ça peut être dans mon temps, ça peut être matériellement, que j'investis dans le royaume des cieux. Mais Dieu dit, l'endroit le plus sûr, c'est au ciel qu'il faut investir. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous quitterons la terre, nous allons être au ciel, notre richesse sera là-bas avec nous. Mais si tu as investi sur la terre, tu vas partir, tu vas laisser ça. Et le problème est arrivé. Sodome et Gomorre, quand Dieu a demandé à Lot et sa femme de sortir, on a dit de ne pas regarder en arrière. La femme de Lot a pensé à toutes ses richesses et tout ce qui se vivait là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a péri avec sa richesse. Elle est devenue un statut de sel. Et c'est pourquoi Dieu veut, en tant que son peuple, nous épargner toutes ces choses. Il nous donne des bons conseils. Investissez dans le royaume des cieux. La bonne place pour investir. Comment encore on peut dire de faire confiance en Dieu en priant? Dans 1 Pierre, il nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je peux faire confiance en Dieu en me déchargeant sur lui, en venant à Dieu dans la prière. Mes inquiétudes et mes doutes, je les mets devant le Seigneur. Seigneur, cette situation me perturbe. J'ai peur de ça. Je veux que tu les prennes en main. Les entreprises ferment partout. Je ne sais pas, avec mon âge, si mon entreprise ferme, je ne suis pas sûr que je suis recyclable. Je ne suis pas sûr que je pourrais trouver un autre emploi. Mais Seigneur, je les mets entre tes mains. Seigneur, oui, je suis jeune, mais les entreprises ferment. Je viens de finir ma formation professionnelle et je n'ai pas d'emploi. Comment je vais me nourrir? Comment je vais faire ci? C'est normal. Apporte ton fardeau devant Dieu. Mets-le au pied du Seigneur. Je suis malade, Seigneur. Ça m'inquiète. Ça me rend difficile. Et je ne veux pas quitter la terre maintenant. J'ai peur de mourir dans la douleur et je vais avoir une santé. Est-ce que Dieu ne veut pas comprendre? Apporte-le devant Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il n'a pas dit déchargez-vous sur lui de quelques soucis. Il dit tous vos soucis. Que ce soit matériel, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des études. Vous pourrez même prier. Seigneur, le gouvernement a augmenté la scolarité. On a marché, c'est compliqué. Le gouvernement ne veut pas reculer. Seigneur, est-ce que tu peux m'aider pour que je puisse payer ma scolarité comme il faut? Il y a des sujets qu'on peut amener devant Dieu. Aucun sujet n'est banal devant Dieu. Amen. Et il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Hein? C'est ça. Faire confiance, comment encore faire confiance en Dieu? Contentez-vous de ce que vous avez. Le manque de contentement est un problème. Oh, j'ai vu les jeunes, ils ont acheté un iPhone. J'aimerais avoir un iPhone. Ah, j'aimerais avoir telle voiture. Mon voisin vient d'acheter une BMW. Je vais avoir la même chose. Vous savez comment moi j'appelle ça? Mon voisin me coûte cher. Parce que si tu veux vivre au rythme de ton voisin, ça veut dire que ton voisin te coûte cher. Contente-toi de ce que tu as. Tu as une belle voiture, bénis Dieu. Tu as une vieille voiture, c'est le temps que tu as ça, bénis Dieu. L'un ou l'autre, bénis Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, loue ton Dieu. Le contentement, c'est être capable d'être content dans la situation dans laquelle nous sommes et qui nous pousse à adorer Dieu, à rendre un culte à l'Éternel. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à avancer. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans la médiocrité. Non. Si Dieu te donne la possibilité d'avancer, avance. Mais si ce n'est pas le cas, force pas. Force pas les choses. Quand tu travailles 40 heures, c'est correct. Mais quand tu dois travailler 80 heures par semaine, 100 heures par semaine, moi je pense qu'il y a un problème. Ça voudrait dire que quelque part, tu veux obtenir des choses que Dieu ne t'a pas données, tu veux forcément l'obtenir. Alors tu vas détruire ta santé, ruiner la santé de ta famille, mettre sa santé en péril et mettre ta famille en péril pour obtenir le bien matériel. À quoi ça va donner? Donc, soyons prudents. On doit être de bons travailleurs, mais avec sagesse. Conclusion. C'est ceci. Ne vous inquiétez pas. Dieu connaît nos besoins. Il s'en occupe. Ayons confiance en notre Dieu et cherchons le royaume des cieux. Investissons à la bonne place, là où il y a la sécurité. La sécurité est sans faille. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez ceci. L'inquiétude, c'est comme une chaise berçante. Ça passe le temps, mais ça ne mène nulle part. Amen. C'est comme une chaise berçante. Ça ne mène nulle part. C'est ce que la Bible nous dit. En résumé de tout cela, prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Dans tout ce tumulte et dans toutes ces difficultés que nous vivons dans la société, Seigneur, tu es au courant de tout. Il n'y a rien qui t'échappe. Mais tu nous dis de te faire confiance. Et nous voulons placer notre confiance en toi. Nous allons te demander pardon, Seigneur, toutes les fois où nous avons manqué de confiance, où nous avons douté de toi, où nous avons cherché à résoudre les problèmes par notre sagesse en nous-mêmes, plutôt que de se fier à toi et de te laisser prendre le devant des choses et de les régler. Seigneur, pardonne-nous. Maintenant, donne-nous la force de placer notre confiance en toi, même dans ces temps difficiles que nous traversons, même dans ces moments difficiles que nous vivons dans l'Église. Nous avons confiance que toi, Dieu, tu es capable de tout résoudre, Seigneur, dans ta vérité, dans ta paix, sans avoir un cœur de triomphalisme. Non, mais parce que toi, tu es Dieu qui domine, qui gagne toutes les batailles. Nous te prions de nous diriger dans l'humilité, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Donc,